Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Yann Brossat, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Christophe Lagarde à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Plusieurs candidats aux élections européennes contestent l'organisation du débat du 22 mai, soit 4 jours avant le scrutin sur France 2 et France Inter. Répartition des candidats, ordre de passage sont jugés arbitraires et inégaux. Au total, 34 listes sont dans la course aux européennes. Toutes n'ont pas droit au même temps de parole ou à la même visibilité dans les médias. Quelles règles régissent l'exposition des différents candidats? Bonjour Michel Léridon.
Bonjour.
Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, présidente du groupe de travail Droit et Liberté, Pluralisme et Déontologie. C'est vrai qu'on a vraiment du mal à s'y retrouver dans ces histoires de temps de parole. Alors il faut tout d'abord nous expliquer comment sont déterminés précisément ces temps de parole, puisqu'on a affaire aujourd'hui donc à 34 listes.
Oui. Alors, d'abord, il faut se rappeler que le CSA applique la loi. Il s'appuie sur la loi, sur le code électoral pour déterminer les règles. Elles ne sont pas sorties de l'esprit.
Chapeau.
Voilà, exactement.
Du CSA.
Distinguez bien les temps de parole des clips de la campagne officielle, des émissions de la campagne officielle. C'est autre chose, on y reviendra peut-être après.
Absolument.
Donc, les temps de parole dans les émissions, c'est la règle qui s'applique, c'est celle qu'on appelle la règle de l'équité. C'est-à-dire, c'est pas l'égalité, exactement le même temps de parole pour tout le monde. C'est une égalité tempérée, pondérée par la place que des formations politiques ont sur l'échiquier. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on détermine cette place?
Absolument, je vais vous dire ça.
Voilà, la représentativité. Eh bien, c'est pas non plus... si sorcier que ça, ça s'appuie sur les résultats de ces formations dans les élections précédentes, leur place dans les assemblées, ainsi que une part des sondages, et puis enfin ce qu'on appelle leur contribution au débat, c'est-à-dire que typiquement dans toutes les listes que vous avez citées, il y a des formations qui n'organisent pas du tout de meeting, qui n'ont même pas un site internet, etc. On voit bien qu'entre une formation des personnalités politiques, comme vous les avez citées, et puis d'autres, il n'y a pas exactement la même chose. Donc, à partir de là, il y a des grands ordres de grandeur qui sont déterminés, et on demande effectivement aux médias de les respecter. Et pour ça, on le surveille en période électorale, semaine par semaine, et on oriente les chaînes en disant attention, vous sous-représentez telle formation ou pas.
Tous les médias n'y sont pas soumis, Michel Léridon.
Si, sur la règle de l'équité, tous les médias qui font de l'information. Donc après, on se rend bien compte que une chaîne d'information en continu a plus d'espace pour effectivement donner la parole à un grand nombre de personnalités politiques sur la durée, et d'autres peuvent avoir une émission politique par semaine, et donc effectivement, les temps de parole globaux sont très différents, mais tous les médias, ils sont contraints.
Qu'est-ce qui est compris dans ces temps de parole? Je pense notamment aux clips de campagne, justement. Est-ce que ça, par exemple, ça en fait partie?
Alors, dans les temps de parole sont compris toutes les déclarations de soutien aux listes. Donc, on pense souvent aux personnalités politiques invitées sur les plateaux. C'est pas seulement ça. Ça peut être aussi un reportage, l'interview d'un militant, etc. Et puis, alors, les clips officiels, c'est complètement autre chose. Alors ça, en revanche, c'est extrêmement normé. C'est à la seconde près. Et c'est déterminé par le CSA. Ça, là aussi, en s'appuyant complètement sur le code électoral. Je vous le dis rapidement, c'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Il y a 3 fractions. Une première, 3 minutes pour chaque liste.
D'accord.
Voilà, ça c'est pas bien compliqué.
Jusque-là,
tout
va
bien. Deuxième fraction, 2 heures qui sont réparties au prorata du nombre de parlementaires, des soutiens exprimés par les parlementaires. Quand on dit parlementaires, c'est députés, sénateurs et députés européens. Donc voilà, il y a là le CSA, c'était simplement de l'arithmétique. Il y avait 120 minutes à répartir en fonction des soutiens qui avaient été exprimés auprès du ministère de l'Intérieur sur ces listes. Et puis enfin, une troisième fraction avec une petite marge de manœuvre, j'espère que je vous ennuie pas, de 90 minutes qui a été répartie, elle aussi en fonction un peu de l'équipe telle que je vous l'ai décrite auparavant. Donc, qui a bénéficié de cette troisième fraction? Eh bien, c'est essentiellement les formations qui ont un poids politique, je vous rappelle pas le résultat de la présidentielle de l'année dernière, et qui n'ont pas une représentation dans l'Assemblée qui est proportionnelle à ce qu'ils représentent dans la vie politique. Donc, on leur a ajouté une partie de ces 90 minutes.
Voilà. Et si un média, alors pas France Culture, hein, bien sûr, Michel Léridon, mais si un média d'aventure ne respectait pas ces règles, que se passerait-il?
Nous, ce qu'on cherche surtout, alors si vous voulez me faire dire qu'il y aurait des sanctions, effectivement, on peut dire qu'au bout du compte, il y aurait des sanctions, mais c'est pas le but. L'appréciation, effectivement, globale, elle est faite sur 6 semaines, mais ce qu'on fait surtout, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on l'observe semaine par semaine, et ça sert surtout à orienter orienter les choix, non pas sur un plan idéologique, mais simplement sur le plan de l'équité, en disant attention, vous n'avez pas invité cette formation politique qui représente quand même quelque chose dans le débat démocratique.
Et alors, aujourd'hui, est-ce qu'un média doit inviter, ou en tout cas donner la parole à ces 34 listes ? Est-ce qu'il y a une obligation ?
On ne parle pas d'exhaustivité, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est nous, évidemment, au CSA, on encourage la plus grande visibilité possible à toutes les listes, parce que c'est aussi une façon de faire exprimer d'autres voix que celle des grandes formations politiques. Mais il n'y a rien qui parle d'exhaustivité dans les règles du CSA.
Et oui, parce que parfois, il y a des invitations lancées à certaines formations politiques et ces formations politiques ne donnent pas suite, ont des difficultés d'agenda. Dans ces conditions, que faut-il faire, Michel Léridon ?
Alors, comme je le disais, il n'y a pas seulement les invitations sur les plateaux. Vous pouvez aussi vous déplacer et encore une fois exprimer des soutiens et pas seulement les têtes de liste. On pense peut-être un peu trop toujours aux têtes de liste. Et puis par ailleurs, effectivement, au bout du bout, on vous demande de montrer que effectivement vous avez invité ces personnalités et que ça a été en vain, parce qu'effectivement, il peut y avoir, y compris un petit peu de tactique de la part de certaines personnalités politiques, de ne pas répondre à des invitations après de se dire lésé.
Et j'ai débuté en évoquant donc ce fameux débat du 22 mai avec une polémique sur une partie des candidats qui devraient passer après les autres. Quelle est la liberté éditoriale d'un média par rapport à cela ? Est-ce que on considère par exemple qu'il y a ce qui relève donc de la loi et puis ce qui relève du choix finalement de chaque support ?
Dans tout ça, oui, je vous rassure, il y a aussi une liberté éditoriale, et en l'occurrence pour l'organisation d'un débat, l'organisation d'une émission, elle est totale. Il y a suffisamment de règles, effectivement, qui sont toutes celles que je viens de vous édicter sur l'équité, sur la durée, c'est-à-dire sur les 6 semaines qui précèdent le scrutin. En revanche, les chaînes, les éditeurs, les rédactions s'organisent comme elles le veulent pour répartir ces temps de parole.
Et puis alors, bien évidemment, parce que tout à l'heure quand je vous disais tous les médias y sont-ils soumis, les réseaux sociaux n'y sont évidemment pas soumis. Tout à l'heure, on va parler de Facebook, mais ça change quand même considérablement la règle du jeu, Michel Léridon.
Ah oui, non mais là, je pense que de toute façon, il serait assez utopique d'essayer d'organiser le pluralisme. C'est ce qui différencie un média professionnel certifié des réseaux sociaux. Donc oui, je vous confirme, ce n'est pas la même règle. De même que ce n'est pas la même règle pour la presse écrite, où le pluralisme est externe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un média plus orienté à droite ou à gauche. C'est pas la même chose pour les médias. Ils disposent d'une fréquence et en échange, disons, ils ont une obligation de pluralisme.
Bon. J'espère qu'on a clarifié les choses. Merci beaucoup, Michel Léridon. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.